Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Le calme va-t-il revenir à Sciences Po Paris? C'est l'espoir exprimé par l'administrateur provisoire de l'école à l'issue d'un débat dans l'établissement sur la situation au Proche-Orient dont Mathieu Laurent nous rendra compte. L'Union européenne promet 1 milliard d'euros d'aide au Liban et demande à Beyrouth sa bonne coopération dans la lutte contre l'immigration clandestine vers l'Europe. Nous joindrons notre correspondant Noé Pignède. Premier duel ce soir entre Valérie Ayer et Jordan Bardella. La tête de liste de la majorité aux élections européennes espère se montrer plus solide sur le fond que le président du RN, pour l'instant grand favori des sondages. Analyse de Rosalie Lafarge. Et puis des étiquettes inspirées du Nutri-Score permettant d'évaluer le bien-être des animaux d'élevage. C'est la proposition faite par l'ANSES en charge de la sécurité sanitaire des aliments. Proposition sur laquelle s'est penchée Julie Paco. Alors que des actions en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza se multiplient, notamment dans des universités américaines, le président israélien prend la parole pour dénoncer ce qu'il voit comme une terrifiante résurgence de l'antisémitisme. Nous voyons l'hostilité et les menaces éhontées, les insultes, nous ressentons la peur et l'inquiétude, déclare Isaac Herzog, défendant le droit de vivre fièrement, pacifiquement et en sécurité en tant que juif, en tant qu'israélien. Où que ce soit. Dans une courte allocution depuis les États-Unis, Joe Biden semble lui répondre « Nous ne sommes pas une nation qui réduit les gens au silence », déclare le président américain. Mais il estime que l'ordre doit prévaloir et affirme que l'antisémitisme n'a pas sa place sur les campus. En France aussi, il y a eu des débordements lors de mobilisations d'étudiants pro-palestiniens. À Sciences Po Paris, où les tensions étaient fortes la semaine dernière, le mouvement avait été suspendu après l'accord de la direction pour organiser un débat interne. Il s'est tenu en fin de matinée dans l'établissement. Vous nous en rendez compte, Mathieu Laurent?
Oui, plus exactement, un town hall, une agora à l'américaine, censée sécréter de la modération. Aucune décision attendue, aucun revirement envisagé. La direction avait prévenu, ni sur les partenariats avec des universités israéliennes et leurs liens avec l'armée, ni sur les poursuites disciplinaires envers les étudiants pro-palestiniens. Jack est parmi les premiers à quitter l'amphi Boutmi, devant lequel s'époumonnent les participants à un rassemblement qui scande le nom de Jean Basser, l'administrateur provisoire de Sciences Po.
Quand on voit leur bafouillement et leur difficulté à répondre à des questions parfois extrêmement simples, dire qu'on a avancé, ce serait un peu une hyperbole. Toujours ce double langage, toujours cette langue de bois, rien de satisfaisant. Quand on voit là ceux qui nous disent qu'il faut laisser à la justice le temps de faire son travail, qu'il faut laisser à Sciences Po le temps de faire son travail, mais qu'on a une oppression du peuple palestinien qui dure depuis 75 ans, moi j'ai l'impression qu'on se fiche de notre gueule en fait.
À la mi-journée, Jean Basser insistait sur les communs.
D'abord, je dois dire que le débat a montré un très large consensus pour que chaque intervenant souligne à quel point il était opposé naturellement à l'antisémitisme et au racisme. Ça a été un débat dur. Moi, les personnes que je rencontre, ce que je sens, c'est clairement qu'elles sont très, très, très touchées à titre personnel et individuel par ce conflit. Un conflit assez difficile.
Un débat dur, disait à l'instant Jean Basser, jusqu'à choquer l'Assemblée. Lola, élève de l'IEP de Reims.
Quand par exemple un étudiant juif se lève et dit « bah écoutez, moi je suis juif et anti-sioniste » et qui dit « moi je suis choqué par ces propos », c'est bien qu'il y a une forme de sélection des propos qui vont dans le sens de la vision qu'a l'administration du dialogue, et que quand il y a un propos qui un peu s'écarte de la narrative que veut avoir l'administration, bah on ne l'écoute plus.
Déception et colère de l'Union étudiante face au refus de la direction de, je cite, « condamner le génocide à Gaza », fin de citation. Quand l'UNI cible, je cite encore, « les terroristes intellectuels qui promeuvent les blocages », Solidaires parle de dialogue fantoche et appelle à la mobilisation. Un dénominateur commun, peut-être la criminalisation du mouvement. Philippe, élève de master à Paris.
Jean Basser, a explicitement dit, dans une menace à peine voilée, qu'il allait inviter la police à revenir en cas de blocage et en cas de manifestation au sein de Sciences Po et pas seulement devant Sciences Po. Alors, je ne me suis pas mobilisé avant, mais ça donne envie de se mobiliser bien plus fort parce que là, c'est hallucinant.
Enfin, Aurélie, le comité de solidarité avec la Palestine occupe l'entrée de Sciences Po à Paris ce soir et l'une de ses militantes a entamé une grève de la faim.
Mathieu Laurent et des étudiants venus de différents campus parisiens sont de nouveau rassemblés devant la Sorbonne. Des actions se poursuivent également en région, par exemple à Lille où l'Institut d'études politiques est resté fermé aujourd'hui, ou à Saint-Étienne où la police a évacué les étudiants qui bloquaient les accès à un site universitaire. Le Liban, qui traverse une crise historique, obtient le soutien de l'Union européenne. En déplacement à Beyrouth, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, annonce une aide d'1 milliard d'euros destinée à soutenir la stabilité socio-économique du pays et aussi à accroître la coopération entre l'UE et le Liban pour lutter contre l'immigration clandestine. Car après des accords similaires avec la Tunisie, la Mauritanie et l'Égypte, l'Union européenne poursuit sa stratégie consistant à sous-traiter la gestion de la crise migratoire en Méditerranée, Noé Pignède.
Au Liban, Ursula von der Leyen conclut ce nouvel accord avec l'espoir affiché de réduire le nombre d'arrivées d'exilés sur les côtes européennes. Une enveloppe d'1 milliard d'euros pour remplir les caisses d'un pays en banqueroute et qui compte l'un des plus grands nombres de réfugiés par habitant au monde. Au Liban, un tiers de la population est de nationalité syrienne ou palestinienne. Des exilés pour qui le pays est devenu invivable et qui rêvent d'un avenir meilleur en Europe, chaque mois, des embarcations de fortune quittent les côtes libanaises pour rejoindre Chypre. Certaines font naufrage. Un quart du milliard d'euros promis par la présidente de la Commission est d'ailleurs directement destiné à l'armée et aux gardes-côtes libanais pour qu'ils luttent plus efficacement contre ces départs. Reste maintenant à savoir si cela suffira à freiner des exilés prêts à mourir pour atteindre l'Europe et surtout comment cet argent sera réellement utilisé dans un pays où le détournement de fonds publics est un sport national. Le Liban est l'un des pays les plus corrompus du monde.
Noé Pignède à Beyrouth pour France Culture. Aujourd'hui, plus de 700 migrants sont arrivés au Royaume-Uni sur des petits bateaux après avoir traversé la Manche, un chiffre record depuis le début de l'année, alors que le gouvernement britannique veut mettre fin à ces traversées et en a fait une priorité. Mais la fameuse loi très controversée visant à expulser des immigrés illégaux vers le Rwanda est discutée aujourd'hui devant la Haute Cour. Des fonctionnaires redoutent de se retrouver dans l'illégalité en l'appliquant. Leur syndicat a donc décidé de demander l'avis de la justice, Richard Place.
Faut-il respecter une loi du Royaume-Uni ou le droit international ? C'est tout l'objet de cette étude approfondie. En faisant passer ce texte si contesté, le gouvernement veut justement éviter des recours devant la justice et même s'en affranchir. La première tentative d'envoyer des réfugiés vers le Rwanda s'était soldée par un échec cuisant. Les tribunaux nationaux, puis la Cour européenne des droits de l'homme, avaient littéralement cloué l'avion au sol. Aujourd'hui, la nouvelle règle nationale stipule que les prochains devront décoller coûte que coûte, en ignorant s'il le faut la CEDH. Les fonctionnaires se demandent donc s'ils ne risquent pas d'enfreindre des règlements internationaux en affrétant ces vols. Ce sont eux qui réservent les appareils, les créneaux de décollage, le transport jusqu'à l'aéroport des étrangers expulsés. Ils doivent mettre en œuvre le projet des conservateurs. Le gouvernement n'a aucun doute, tout est légal. En appliquant la décision, les fonctionnaires agiraient conformément au code de la fonction publique. Peut-on lire sur le site gouvernemental, y compris l'obligation de ne pas entraver la mise en œuvre des politiques une fois que les décisions ont été prises.
Richard Place à Londres. Une semaine après son discours sur l'Europe à la Sorbonne, Emmanuel Macron en reprend les principaux thèmes dans un long entretien accordé à The Economist. « Notre Europe aujourd'hui est mortelle », déclarait le chef de l'État jeudi dernier. À l'hebdomadaire britannique, le président explique ce qui doit être fait pour éviter, selon lui, une mort brutale de l'Europe. Et il discerne trois crises susceptibles, selon lui, de déstabiliser le continent. Bonsoir Frédéric Saïd.
Bonsoir Aurélie.
Première crise, évidemment, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Emmanuel Macron répète qu'il ne faut pas s'interdire d'envoyer des troupes au sol en Ukraine.
Il ne faut exclure aucune hypothèse par principe, estime Emmanuel Macron, face à un adversaire qui n'a aucune limite. Il ne cite pas Vladimir Poutine, mais l'allusion est claire. Pour la première fois, toujours dans le registre de l'hypothèse, Emmanuel Macron développe sa position. Par exemple, si les Russes devaient percer les lignes de front, dit-il, et s'il y avait une demande ukrainienne, alors on devrait légitimement se poser la question donc de l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Pour appuyer sa démonstration, le chef de l'État rappelle que la France a envoyé des soldats en Afrique, au Sahel, en réponse à une demande d'aide des dirigeants locaux, sous-entendu, pourquoi pas pour l'Ukraine.
Emmanuel Macron identifie deux autres menaces existentielles pour l'Europe, Frédéric.
Oui, menace économique d'abord, au moment où la Chine et les États-Unis subventionnent massivement leur industrie. Emmanuel Macron veut que l'Europe, elle aussi, investisse dans les secteurs d'avenir comme l'intelligence artificielle ou le calcul quantique. Et puis, la menace des nationalismes, explique le chef de l'État. Dans cet entretien, Emmanuel Macron dénonce les changements du rassemblement Rassemblement national, sur l'appartenance à l'Union européenne ou à l'euro, les nationalistes sont des Brexiteurs cachés, lance le président de la République, c'est-à-dire, selon lui, des partisans silencieux d'une sortie de l'Union européenne. Prise de position à moins de 40 jours du scrutin européen et alors que sa candidate est largement distancée par le RN dans les sondages.
Merci Frédéric Saïs. Et on y vient justement, c'est leur premier face-à-face de la campagne des européennes. Les têtes de liste Jordan Bardella et Valérie Ayé débattent ce soir sur BFM TV. À moins de 40 jours du scrutin, le candidat du Rassemblement national fait la course largement en tête, vous le disiez. Valérie Ayé est d'ailleurs talonnée par la liste PS Place Publique Raphaël Glucksmann et donc dans une position bien moins confortable. Mais le moment est important pour les deux camps, Rosalie Lafarge.
Elle veut l'attaquer sur son absence de projet, il veut lui faire payer son bilan. Elle voudrait voir sa campagne enfin décoller, il va tenter de ne pas trébucher. Deux salles, deux ambiances tout à l'heure en plateau, avec des risques des deux côtés. Le RN veut éviter le procès en arrogance comme en incompétence. Jordan Bardella va devoir prouver qu'il maîtrise les dossiers européens et qu'il n'a pas déserté le Parlement dans lequel il est élu depuis 5 ans et où il n'a déposé que 21 amendements. Les macronistes redoutent l'enchaînement de mauvaises séquences. Valérie Ayé est moins habituée au plateau télé, moins à l'aise aussi peut-être. Il est sans doute meilleur sur la forme, mais elle plie le match sur le fond, se rassure-t-on dans l'état-major de la campagne. Il faut qu'on le débusque, insiste un cadre de Renaissance, qu'on le confronte à ce qu'il est, ce qu'il a été et ce qu'il sera, appuie un autre. Les deux soulignant les incohérences et l'hypocrisie du RN, capable, disent-ils, de défendre tout et son contraire. L'ambiance promet d'être électrique pendant l'heure et demie prévue, autour de questions d'actualité, puis de quatre parties. L'Europe de la défense et le soutien à l'Ukraine, l'écologie et l'agriculture, l'Europe sociale et le pouvoir d'achat, et puis l'immigration. Ce ne sera pas facile, admet d'emblée un proche de Valérie Ayé, persuadé malgré tout qu'il suffira d'un petit moment, d'une seconde de gêne visible sur le visage de Jordan Bardella, d'une micro-hésitation dans une de ses réponses, pour permettre à la tête de liste macroniste 1 de gagner en notoriété, et 2 de réinstaller l'idée d'un duel avec le RN.
Rosalie Lafarge. Les syndicats agricoles restent sur leur faim. Leurs responsables ont échangé avec le président de la République ce matin à l'Élysée. C'était une promesse prise par Emmanuel Macron lors de sa visite chaotique au salon de l'agriculture il y a 2 mois. Bonsoir Thomas Pinaroli.
Bonsoir.
L'exécutif voulait ainsi acter la fin de la crise agricole et ouvrir des perspectives pour le secteur, mais ça n'est pas vraiment ce que les syndicats retiennent de cette réunion.
Non, Emmanuel Macron a répété les 70 engagements pris par le gouvernement, mais la FNSEA attend toujours de les voir sur le terrain. Son président Arnaud Rousseau.
Le monde agricole, c'est pas on parle, c'est on fait. Si on dit contrôle unique dans les fermes, il y a un moment, c'est où il y a le contrôle unique, où il n'y a pas le contrôle unique. Le reste, c'est du verbiage.
Alors le président de la République a tenté de rassurer sur le calendrier. Une loi pour assouplir l'utilisation des produits phytosanitaires avant l'été. Un nouvel Egalim sur la rémunération avant les négociations commerciales d'octobre. Et puis une discussion sur la politique agricole européenne. On n'en attend rien, répond Véronique Le Floch à la tête du deuxième syndicat agricole français, la Coordination Rurale.
Ce que je retiens de cette réunion, c'est l'enfermement d'Emmanuel Macron dans cette logique de libre-échange. Pour la coordination rurale, c'est justement cette non-protection de l'agriculture qui fait que aujourd'hui, nous sommes dans une impasse.
Les syndicats majoritaires FNSEA et Jeunes Agriculteurs reconnaissent, eux, de vraies inflexions. Arnaud Rousseau attend maintenant une vision à plus long terme.
Comment demain en France on va se projeter sur les questions de l'eau, sur les questions du grand plan pour l'agriculture méditerranéenne, sur les questions de l'agriculture ultramarine. Voilà des sujets sur lesquels nous on attend, parce qu'on peut être en permanence dans le moment. Je rappelle que ce qui nous intéresse, c'est comment on projette l'agriculture.
Et là-dessus, Emmanuel Macron renvoie la balle au syndicat. Il se dit prêt à tenir un grand discours de vision dès septembre, mais il ne veut pas, je cite, « courir après la colère et les surenchères syndicales à quelques mois des élections professionnelles agricoles ».
La FNSEA et les jeunes agriculteurs disent ne pas vouloir attendre pour travailler sur cette vision. Confédération paysanne et coordination rurale semblent moins pressées. 8 ans après la loi de pénalisation des clients, le gouvernement a présenté aujourd'hui son plan de lutte contre la prostitution et l'exploitation sexuelle. Rappelons que la prostitution concerne environ 40 000 personnes en France. La ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, insiste sur la position abolitionniste de la France. Avec cette stratégie interministérielle, elle souhaite renforcer la loi, mais aussi l'adapter aux nouvelles formes de travail du sexe, notamment sur Internet. Bonsoir Estelle Caméraire.
Bonsoir Aurélie.
C'est un plan de lutte qui se veut très ambitieux.
Trois ministères sont mobilisés. Le plan prévoit de gros moyens humains et financiers. Mais pour Aurore Berger, il faut voir de plus en plus large sur le sujet.
On s'adapte à des nouveaux territoires, notamment le numérique, qui a facilité malheureusement le recours à la prostitution, avec plus de moyens qui sont mis, notamment de cyber-enquêteurs. Et on rappelle qu'on n'est pas là pour criminaliser les femmes et les hommes qui sont dans la prostitution, mais bien pour rechercher les responsabilités et les coupables, ceux qui profitent de ces femmes et de ces hommes.
Les coupables, les clients que les associations appellent les prostitueurs. Ils étaient déjà visés par la loi de 2016, une loi qui mérite des améliorations selon Aurore Berger. Les forces de l'ordre vont être formées pour mieux accueillir la parole des victimes, mais aussi...
Comment on les guide aussi vers des intervenants sociaux, comment on les accompagne vers des parcours de sortie de la prostitution. Et puis, c'est ce qu'on fait avec le ministère de la Justice, c'est qu'on voit qu'il y a une progression constante des peines qui sont prononcées dans les deux cas. Évidemment le proxénétisme, mais au-delà du proxénétisme, des peines renforcées pour les prostitueurs, pour les clients qui donc abusent du corps tout simplement des femmes et des hommes qui sont dans le système prostitutionnel.
Des survivantes sont également venues témoigner au ministère, dont Lexi, 22 ans. Elle reste un peu dubitative face à la position abolitionniste, mais les mesures présentées sont importantes pour elle.
Ce sera comme tout, il y aura toujours une passe sous le manteau, quelque chose comme ça, mais au moins si les institutions prennent à cœur leur travail pour faire en sorte que la plus grande majorité puisse ne jamais connaître ça, enfin c'est au moins l'idéal. On peut essayer de minimiser les risques, ils seront jamais zéro, mais en même temps c'est la vie humaine, j'ai envie de vous dire...
Lexi attend de voir si tout sera vraiment mis en place pour mieux se positionner. Le gouvernement, lui, n'a pas donné de date limite pour la mise en place du plan.
L'Assemblée s'empare du délicat sujet des violences sexistes et sexuelles dans le cinéma. Donnant corps à une demande de l'actrice Judith Godrèche, les députés ont approuvé la création d'une commission sur les abus et violences dans le cinéma, mais aussi l'audiovisuel, le spectacle vivant, la mode et la publicité. Sophie Talpon.
Oui, la députée écologiste Francesca Pasquini, à l'origine de cette résolution, salue le vote à l'unanimité pour la création de cette commission d'enquête. C'est un message fort, c'est le message qu'on espérait, parce que ça montre que finalement il y a cette volonté transpartisane dans des questions qui touchent les mineurs, mais aussi dans des questions de violence faites aux femmes. Ça n'arrive pas à l'Assemblée souvent qu'il y ait du travail transpartisan. Je me réjouis qu'on soit capable aussi de travailler sur des questions aussi importantes tous ensemble, malgré les divergences que nous pouvons avoir au quotidien. À ses côtés, lors de la conférence de presse ce matin, la députée Renaissance, Véronique Rouillé-Auton, présidente de la délégation aux droits des femmes, souligne les objectifs de cette commission d'enquête.
On n'est pas là en train de faire une dénonciation du cas par cas, mais le but de cette commission, c'est bien de regarder les mécanismes et de faire en sorte que ces mécanismes puissent être arrêtés et voir les manquements pour protéger les enfants ou les adultes.
Ce n'est plus seulement le monde du cinéma, mais le monde de la culture qui sera passé au crible par les députés, met en avant le vice-président de la commission des lois, le député MoDem, Erwan Baladan.
De ne pas se limiter à la sphère du cinéma. Et donc nous avons rajouté l'audiovisuel, le spectacle vivant et la musique. Parce qu'on a le même type de phénomènes qui peuvent exister dans d'autres champs.
Les 30 membres de cette commission d'enquête seront désignés le 13 mai pour des conclusions attendues en novembre prochain.
Sophie Delpont. Depuis 2017, le Nutri-Score s'est fait une place sur bon nombre de produits alimentaires répondant aux attentes de transparence et d'information des consommateurs. Et l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire, propose aujourd'hui de s'en inspirer pour évaluer le bien-être des animaux ayant servi à l'élaboration d'un aliment. Bonsoir Julie Paco.
Bonsoir Aurélie.
5 niveaux de couleurs et des lettres de A à E permettraient aux consommateurs de se faire une idée non seulement des conditions d'élevage, mais aussi du bien-être effectif des animaux.
Effectivement, car s'il existe aujourd'hui différents labels mettant en avant des conditions d'élevage présentées comme plus respectueuses, ces indicateurs laissent de côté l'état de bien-être de l'animal. Mathieu Scheller est directeur délégué du pôle science à l'ANSES.
Ça peut se regarder très concrètement. Est-ce que les volailles se comportent comme des volailles? Est-ce qu'elles grattent la terre? Est-ce qu'elles picotent? Est-ce que les ruminants vont volontiers à la traite? Est-ce qu'ils ne sont pas sujets à des boiteries? Beaucoup de paramètres qui peuvent s'observer au plus près des animaux et qui sont, chaque fois qu'on peut, préconisés, recommandés par rapport à des éléments de type conditions d'élevage.
L'objectif est donc de fournir une boîte à outils commune afin d'inciter les producteurs et éleveurs à s'en saisir, tout comme les pouvoirs publics. D'autant plus que ce type d'initiative fonctionne. L'étiquette bien-être animal lancée il y a 4 ans pour les poulets de chair rassemble aujourd'hui 40% des éleveurs de poulets en France, rappelle Louis Schweitzer, son président.
Les producteurs agricoles en voient tout à fait l'intérêt. Ils savent que dans la durée, il faudra améliorer le bien-être animal. Et donc, il ne peut y avoir progrès que si, du côté des consommateurs et du côté de la distribution, il y a acceptation d'un surprix. Et c'est effectivement ce qu'on constate pour les poulets.
Sauf que cette démarche, sur la base du volontariat, fait aussi reposer la condition des animaux d'élevage sur le choix des consommateurs, souligne Joanne Mienkarek, chargée de campagne pour l'association L214.
Il y a un risque à faire glisser en fait les responsabilités uniquement sur le choix des individus et de masquer une inaction, parce que c'est le cas actuellement en fait, une inaction du monde politique à faire évoluer la réglementation qui encadre les pratiques dans les élevages, dans les abattoirs, puisqu'aujourd'hui est considéré légal.
Car en France, on le rappelle, Aurélie, hein, 80% des animaux d'élevage vivent encore dans des exploitations intensives au sein de cages ou de bâtiments fermés.
Merci Julie Paco. Le temps sera changeant demain avec des éclaircies par moments, surtout près de la Méditerranée, mais aussi des passages pluvieux. Des averses toucheront la Bretagne avant de gagner l'Île-de-France, la Bourgogne et l'Auvergne. Il fera 5 à 12 degrés au lever du jour, 12 à 16 l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.